Nous voici dans l'histoire de France.
Et pas seulement dans l'histoire de France.
Le témoin de ce vendredi, Jean-François Leroux, maire et historien.
Avis à la population. Le jury du concours pour la construction du centre culturel et sportif, comprenant une médiathèque, une piscine et un théâtre de verdure. Les plans seront exposés à la mairie à partir de lundi pour que la population puisse en prendre connaissance. Demain, Julien de Chaume.
Les maires viennent de tenir leur congrès, on ne fait pas plus traditionnel. Mais par temps d'orage, eux qui sont des constructeurs, on entendait un extrait d'un film de Romère. Ils ont une fonction particulière de paratonnerre, ils sont de ceux qui font encore tenir le pays. Notre témoin a été élu de Bar-sur-Aube. Beaucoup d'entre nous n'étant plus habitués qu'au nom des grandes villes sur les trajets avantageux des TGV, il faut situer. Bar, une des quatre grandes foires de champagne du Moyen-Âge, se trouvait sur un axe nord-sud de première importance. Aujourd'hui, avec ses 5300 habitants, elle chevauche la diagonale du vide, celle de la France qui se dépeuple. Dans le pays, Bar-Albin, magnifique avec ses forêts et ses rivières, s'était construit un savoir industriel fondé sur le fer et le verre. Bientôt, il n'en restera plus rien. Le début du 21e aura vu la fin des forges de Clairvaux, quasi millénaire, et ce printemps, celle de la cristallerie royale de Bayel, multiséculaire. Et c'est maintenant la centrale de Clairvaux, 200 emplois et plus de 200 ans d'âge qui est menacée. Le garde des Sceaux, ce printemps toujours, a jugé nécessaire la fermeture d'une prison où, je le cite, « le passé ne cesse d'inspirer la perception du présent ». Il se trouve que notre invité, s'il a été maire, est aussi historien. Entre autres paradoxes, difficilement compréhensibles pour les responsables d'aujourd'hui, il défend l'idée que dans les pays de France négligés par les flux modernes, moins il reste d'habitants, plus ils sont intéressants, résilients en somme.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Jean-François Leroux, bonjour.
Bonjour.
Architecte, enfin plus précisément maître d'ouvrage, on y reviendra sans doute. Historien, vous animez depuis longtemps l'association Renaissance de Clairvaux. Vous avez publié plusieurs livres sur l'architecture cistercienne sous votre nom de plume de Jean-François Duisse. Alors ça, ce sont vos métiers. Maire, c'est un projet, un vieux projet.
Oui, c'est un projet peut-être qui date de l'enfance parce que je suis né dans Bar-sur-Aube et que j'ai appris à connaître ce qu'était un bourg central, une petite ville plutôt qu'un bourg, qui dirige un petit pays au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire un écosystème en quelque sorte, pour reprendre des termes géographiques, où il y a une sorte d'unité de biens et de valeurs. Bar-sur-Aube, c'est le pays de Bar-sur-Aube. Et dans ma vie professionnelle, j'ai rencontré beaucoup de maires. Je me suis aperçu qu'ils pouvaient agir et j'avais une petite association de protestation à Bar-sur-Aube contre ce qui ne se faisait pas à mon goût. Et finalement, je me suis dit que les associations, c'est bien, mais elles choisissent leur sujet. Finalement, ce n'est pas très concret. Ce n'est jamais très concret. Et finalement, le plus simple, c'était de devenir maire. À ma retraite, c'est ce que j'ai fait. J'ai heureusement été élu et j'ai pu effectivement appliquer tout ce que j'avais appris pendant ma vie professionnelle.
Est-ce que vous êtes allé souvent au Congrès des maires de France?
Je suis allé une seule fois au Congrès des maires de France.
T'as des échos de vieux Congrès des maires de France d'après la Libération.
Réunis pour leur congrès à l'hôtel de ville de Paris, les maires de France, toutes écharpes déployées, sont descendus dans la rue. En l'occurrence, c'est vers le ministère des Finances que 700 d'entre eux ont dirigé leur marche pour protester contre l'ingérence de l'État dans les finances communales.
Dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Paris, les débats porteront surtout sur le retour aux libertés communales.
Les finances tout d'abord, car aucune commune n'est en mesure à l'heure actuelle d'équilibrer son budget. La défense des libertés municipales, qui n'ont pas encore été rétablies depuis la Libération. La nouvelle organisation des services publics. La réorganisation des sapeurs-pompiers et enfin et surtout la solution des problèmes posés dans les communes rurales dont la plupart sont insolubles tant que l'État n'aura pas réformé les finances locales qui puissent permettre aux communes qui ont le plus de besoins et le moins de ressources de pouvoir établir les réalisations qui sont indispensables dans l'intérêt de la population.
On ne sait pas de quelle oreille le ministre a écouté les revendications présentées par ces manifestants, aussi paisibles que municipaux.
Les libertés locales, c'est une question toujours à l'ordre du jour maintenant avec les intercommunalités géantes, les finances des communes, toujours les mêmes problèmes récurrents. Vous aimiez, vous, les manifestations rituelles et protocolaires ?
Pas beaucoup. Bien évidemment, on fête le 14 juillet, on fête le 11 novembre, il y a des défilés d'anciens combattants, j'y étais régulièrement et c'était une occasion de faire un discours qui permettait de rappeler le passé et organiser le présent. Car à chaque fois qu'on a la parole, eh bien, je pense qu'il faut essayer de rattacher le passé et le présent, et surtout de ne jamais être seulement ancien combattant. Il faut être également en devenir.
Alors, on parle quand même un peu du passé. Au Moyen-Âge, que vous allez évoquer, Jean-François Leroux, Barre était sur un grand axe international.
Alors, c'est vrai. La chance de Bar-sur-Aube, c'est d'avoir bénéficié de la voie d'Agrippa, parce que Bar-sur-Aube est au pied d'une colline où il y avait un oppidum celte, et c'était un lieu très important de défense de cet axe nord-sud. Les comtes de Champagne, quand ils sont devenus plus riches que le roi de France, ont essayé de récupérer le flux de commerce qui allait de l'Italie vers les Flandres, et Bar-sur-Aube était tout près de Troyes, enfin tout près, 60 kilomètres, ça permet notre autonomie, mais ça permet aussi d'être champenois. Et les comtes de Champagne ont décidé de récupérer, en quelque sorte, le flux. Bar-sur-Aube était donc la gare de triage qui conduisait les marchands italiens non plus vers le nord, mais vers trois provinces, Lagny et Paris.
C'était les quatre foires de Champagne avant Paris.
Voilà, c'était les quatre foires de Champagne dont Brodel a dit qu'elles avaient modifié l'économie monde, puisque d'un seul coup, on passait du Piémont vers les Flandres, non plus par la mer, mais par une terre qui était protégée, puisque les comtes de Champagne sécurisaient le trajet.
Modification de l'économie monde, parce qu'on invente dans les foires de Champagne certains des systèmes de crédit les plus modernes.
Absolument. Chaque foire durait 6 semaines. Il y avait 6 foires dans l'année. Bar-sur-Aube en avait une, Troyes en avait deux, le Provins en avait deux et Lagny en avait une. Pendant ces 6 semaines, eh bien, on s'installait d'abord, ensuite on faisait du commerce pendant 4 semaines, et la dernière semaine, on faisait la compensation financière. C'est-à-dire que c'était les premiers banquiers, en quelque sorte, puisque cette compensation permettait de compenser entre marchands, mais entre marchands des foires différentes.
Puisqu'on parle des étrangers, alors à l'époque, il y avait les Ptolémées de Sienne qui venaient souvent à Bar, ceux qu'on retrouve dans les Rois maudits de Maurice Druon. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'étrangers, 25% d'étrangers dans la population, beaucoup de Turcs. Quand on va à Bar-sur-Aube un samedi, on a toute chance de voir devant votre ancien hôtel de ville un mariage turc avec drapeau turc, quand ce n'est pas un mariage algérien avec drapeau algérien.
Oui, c'est tout à fait fréquent. Il faut savoir que, comme nous sommes une ville industrielle, nous avons beaucoup de populations qui sont venues travailler à Bar-sur-Aube et, pour le bien vous cacher, ce sont eux qui constituent souvent la force de frappe des entreprises. On entretient des relations très amicales avec toutes ces communautés, bien qu'elles soient quand même très communautariste.
Et il y a deux mosquées à Bar.
Il y a deux mosquées à Bar.
Vous n'alliez pas beaucoup à la mosquée marocaine.
Mais j'allais à la mosquée turque, avec qui j'entretenais de bonnes relations. Il m'est même arrivé d'être invité à la suite d'un mariage que j'avais un peu favorisé.
Un mariage que vous aviez un peu favorisé. Ça, c'est une question sensible pour les maires. Comment ça?
Parce que c'était une des conditions pour qu'on ne renvoie pas une famille à la frontière. Donc, j'ai considéré que c'était mon devoir d'aller jusque-là. Et alors est arrivée une anecdote quand même un peu curieuse, c'est que j'avais oublié que les traditions sont pas toujours les mêmes. J'étais donc invité à ce mariage et quand je suis arrivé, j'ai embrassé la mariée. Alors, on m'a pardonné, évidemment, parce que toute la communauté savait bien que je le faisais par gentillesse et pas pour autre chose.
C'est une question qui agite le congrès des maires. Comment se comporter dans une mosquée? Comment se comporter dans une église? Les plus laïques des maires, dont le président des maires de France, votre voisin de Troyes, monsieur Barouin, dit, faut-il vraiment faire le signe de croix quand on est maire et qu'on rentre dans une église? Alors, vous avez deux églises, dont une, je crois, est encore fermée, alors qu'elle est superbe. Vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous et vos successeurs, pour la restaurer. On va parler un peu de patrimoine. Vous avez aménagé une médiathèque. Vous vous souvenez, dans les années 90, il vous est arrivé de rencontrer Éric Rohmer?
Oui, effectivement. Une réunion de travail à la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, et où, effectivement, on préparait une sorte de colloque sur l'avenir de cette... en particulier du grand axe qui devait réunir Cergy-Pontoise et la Tour Eiffel.
Ça, c'est votre côté urbaniste, maître d'ouvrage, architecte. Est-ce que ce genre de débat a inspiré Éric Rohmer dans le film « Le maire, l'arbre et la médiathèque » ? Un maire se met en tête d'aménager une médiathèque, ça va provoquer la destruction d'un arbre. L'instituteur, ici Fabrice Lucchini, intervient avec à ses côtés son épouse, Françoise Etchegaray.
Mais qu'est-ce qui leur prend, bon Dieu ? Qu'est-ce qui leur prend ?
Oh, mais qu'est-ce qui te prend, toi aussi ? Je t'ai jamais vu aussi violent.
Non, ben, je suis pas violent en général, mais là, je le suis. Je le suis extrêmement. Je me sens capable de tout, c'est mon point sensible. Je pourrais faire n'importe quoi, même tuer. Il y a des types qui flinguent des mômes parce qu'ils ont un peu crié. Moi, c'est les architectes. Tu vois, le jour où les ouvriers viendront donner leur premier coup de pioche, si j'avais une mitrailleuse...
Oh, tais-toi.
Quelqu'un a dit, c'est pas moi, il faut supprimer la peine de mort, sauf contre les architectes.
Mais ce n'est pas la faute de l'architecte, c'est plutôt celle du maire.
Non, mais de la part du maire, c'est normal, c'est un politicard. Mais un architecte devrait être un homme de goût.
Mais attends avant de juger. Le projet est sans doute très respectueux du site.
Respectueux, tu as dit le mot. Mais c'est ça qui est grave. Hein. Au nom du respect, on peut tout faire. On justifie le pire vandalisme. J'aurais mieux aimé qu'on construise une tour en béton, un hangar en tôle ondulée. Là, les gens auraient pu se révolter. Mais voilà, c'est respectueux. Alors on peut rien faire. On peut rien dire. C'est le moindre mal.
Jean-François Leroux qui aménagea une médiathèque dans un ancien hôtel de Bar-sur-Aube très respectueusement.
Oui, et je pense que ce qu'on vient d'entendre est une caricature, certes, mais elle est parfois juste. Cela dit, on peut quand même considérer que la plupart des maires sont quand même tellement amoureux de leur ville que, même s'ils n'ont pas forcément toujours la formation qu'il convient, et si les ABF ne font pas toujours...
Les architectes des bâtiments de France.
Architectes des bâtiments de France ne font pas toujours la pédagogie qui conviendrait auprès de la population au moment des permis de construire, par exemple. Je pense quand même que dans la plupart des cas, les progrès sont réels et que l'on tient compte du patrimoine.
Mais dites-moi, vous dites, vous qui êtes à la fois architecte et maire, qu'un permis de construire, ça ne doit pas se déposer comme un ukase, mais comme un acte pédagogique.
Absolument.
On entendait un tambour de ville tout à l'heure, en ouverture de l'émission, qui appelait à la délibération.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, sans doute que faute de temps ou faute de passion peut-être, les permis de construire qui devraient constituer un moment très important de dialogue entre celui qui demande à construire et celui qui va l'autoriser, eh bien c'est un moment qui n'existe quasiment jamais. J'avais essayé de le faire, ça prend beaucoup de temps, c'est-à-dire de suggérer à ceux qui ont envie de construire de venir dialoguer avant de déposer un dossier de permis de construire à la mairie.
Parce que pour vous, c'est le moment le plus intéressant, plus que l'inauguration.
Évidemment. Évidemment, c'est au moment où l'on fait le programme. Et c'est là où d'ailleurs chaque pétitionnaire de permis de construire oublie qu'il est un maître d'ouvrage potentiel. Et que c'est à l'architecte ensuite de traduire le projet qu'il a envie de faire. Il faut donc magnifier le rôle du maître d'ouvrage.
On va monter un instant comme le faisait Bachelard, né à Bar-sur-Aube. Professeur de physique à Bar-sur-Aube, professeur de philosophie à Bar-sur-Aube, enterré à Bar-sur-Aube, en haut du clocher de Saint-Maclou. Saint-Maclou, vous n'avez pas réussi à la restaurer.
Alors Saint-Maclou, je n'ai pas réussi à le restaurer parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour l'église Saint-Pierre.
Oui.
Mais Bachelard...
Bah, les deux églises.
Mais oui, Bachelard est monté sur le sommet du clocher de Saint-Maclou.
Qu'est-ce qu'il voit ?
Et il voit la rivière, il voit la colline, en fait il voit les quatre éléments.
C'est-à-dire
l'eau, la terre, le feu et l'air, c'est-à-dire tout ce qui va être à l'origine de toute sa littérature sur l'analyse et la psychologie des quatre éléments.
Pas n'importe quelle terre, parce que c'est la terre de la vigne. À Bar-sur-Aube, il y a du champagne.
Versez-nous le champagne, tra-la-la-la-la-la, les mains de cocagne, tra-la-la-la-la-la. Qu'un autre aime la guerre, au laurier je préfère cette mousse légère qui sourit en verre. Buvons, buvons, si l'exemple vous gagne, que tout y m'accompagne, buvons au roi champagne. Buvons, 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 sa majesté champagne est roi, mangeons-nous. Vive le champagne roi.
Sa majesté champagne roi, dans un dos, c'est sa roi. Vive le champagne, c'est vive le roi.
champagne roi, rangeons-nous sous sa loi. Vive le champagne roi.
Sa majesté champagne roi, rangeons-nous sous sa loi. Vive le champagne.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec ce vendredi, Jean-François Leroux, qui est historien, qui a été maire de Bar-sur-Aube. On entendait un extrait de La Chauve-souris de Johann Strauss avec Nicole Broissin, Christine Grusel, Willine Clément. C'est une version de l'orchestre philharmonique de l'ORTF. Alors, on ne fait pas n'importe quel vin. On ne fait pas n'importe quel fer. C'est un vieux bassin industriel. Sous votre mandat, vous avez vu tout se défaire. Et d'abord, les forges de Clairvaux qui ferment en 2002.
Alors ça, c'est un drame. Ça a été un drame pour la région, c'est un drame pour l'image de la région, pour l'histoire de la région. En fait, cette usine qui avait encore 200 ouvriers et qui faisait un laminage de très grande qualité avait été créée sous Saint-Bernard en 1147, je crois. En fait, c'était la plus vieille usine en activité du monde. Je ne connais pas d'autres exemples d'usines ayant 850 ans d'existence et d'activité. On peut épiloguer beaucoup, et je ne le ferai pas ici, sur les raisons pour lesquelles cette usine a fermé. Il n'en reste pas moins vrai.
Qu'on ne trouve plus de volets à lamelles.
Ah ben voilà, on ne trouve plus par exemple de volets à lamelles, parce que le laminage de très grande précision qui était fait avec les 10 000 cylindres que contenait l'usine, eh bien, plus personne ne sait les faire aujourd'hui.
Non loin de votre ville de Bar, à 6 kilomètres, il y avait aussi les anciennes cristalleries royales de Champagne. Je dis les anciennes, elles sont multiséculaires quand Georges de Caunes les visite en 1964.
Ne cherchez cette formation de jazz dans aucun sous-sol de Saint-Germain-des-Prés. Ces musiciens ne soufflent dans les saxos ou les clarinettes que pour leur plaisir. Et avec d'autant plus d'enthousiasme qu'ils ont le restant de la semaine pour vérifier que souffler n'est pas joué. Ces musiciens sont des ouvriers et ces ouvriers des artistes. Ils appartiennent aux cristalleries de Champagne à Bayel. Bayel date de Colbert. Si le principe de fabrication n'a pas beaucoup évolué depuis 3 siècles, l'art de l'ouvrier, sa patience, sa technique restent les raisons essentielles de cette industrie où la France occupe toujours le premier rang. Ici, le moindre défaut est sanctionné. Ce sont des œuvres parfaites qui sortent de l'usine car l'on n'a trouvé encore aucune machine susceptible de remplacer l'homme.
Dans le temps, était obligé de réveiller les ouvriers, les verriers, avec une sonnette.
Aujourd'hui, c'est une sirène qui appelle les ouvriers au travail, à 4h15 chaque matin. Ils sortent de la nuit noire et froide pour se retrouver ici où commence leur balai quotidien avec le feu.
Au mois de mai 2016, la sirène a sifflé une dernière fois à Bayel, qui était devenu il y a quelques années un satellite de Dôme, et vous étiez là.
Effectivement, il fallait être là, ne serait-ce que par respect pour ces ouvriers et ouvrières qui sont sortis pour la dernière fois, tous ensemble, et ça ressemblait exactement à ce que l'on voit au cinéma quelquefois quand on a vu filmer des mineurs qui sortaient de leur mine après un coup de grisou, si vous voulez. C'était un grand silence, toute la population était là. Et c'est vrai que cette sirène ne sonnera plus jamais, et c'est évidemment pour nous un signe considérable d'abandon d'une tradition séculaire, et c'est une tradition qui va mourir, c'est
mais
tout à fait triste.
Mais pourquoi achète-t-on moins de cristal ?
Alors on achète moins de cristal aujourd'hui, et c'est pas seulement Bayel qui est en cause, je crois que les 4 ou 5 cristalleries qui existent encore en France ont toutes des problèmes, elles sont soutenues les unes par les grands groupes comme LVMH ou Hermès.
Et les problèmes viennent de quoi ?
Mais les problèmes viennent en particulier du fait qu'on ne fait plus de services de verre, il n'y a plus de cadeaux de mariage, les fameux services qu'on offrait dans les mariages. Et les gens préfèrent se marier et puis aller faire une croisière au bout du monde, on peut les comprendre.
Et les écologistes, vous pouvez vous fâcher avec les écologistes.
Ah ben, je peux me fâcher un peu de temps en temps avec les écologistes.
Vous n'êtes plus élu Les écologistes, ils disent que dans le cristal...
Il y a du plomb, et on prétend que c'est mauvais, c'est une manière indirecte pour certains de faire croire qu'il faut faire autre chose que du cristal, qui coûte évidemment très cher. Quand on casse un verre de cristal, qui vaut 40 euros, il est évident qu'il vaut mieux ne pas le casser trop souvent.
Vous aviez créé, il existe toujours, c'est ce qui subsiste de la cristallerie, un musée. Mais votre idée, c'était que le musée fonctionne avec le four. De même qu'à Clairvaux, où vous animez l'association Renaissance de Clairvaux, vous concevez la restauration de l'abbaye de Saint-Bernard, qui, grâce à vous, a avancé à grands pas, ou l'accueil des visiteurs, ou le festival de musique ombre et lumière de Clairvaux, qu'en liaison avec l'activité pénitentiaire. Vous racontez l'enfermement volontaire des moines en complémentarité avec l'enfermement pénitentiaire. Sauf que le 28 avril, le garde des Sceaux a annoncé qu'il entendait fermer la centrale ouverte en 1804. Et le député de la circonscription, Nicolas Duic, interpellait ainsi Jean-Jacques Urvoas à l'Assemblée.
Ma question s'adresse à monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le garde des Sceaux, devant des élèves de l'École nationale d'administration pénitentiaire, sans prévenir la préfète du département, sans prévenir le député de la circonscription, sans prévenir le président de la communauté de communes, sans prévenir les maires, vous avez annoncé la fermeture brutale de la centrale de Clairvaux. Monsieur le ministre, Clairvaux, c'est plus qu'une centrale, c'est tout un symbole, c'est toute l'histoire de l'administration pénitentiaire. Monsieur le ministre, à Clairvaux, depuis des générations, ce sont des surveillants de l'administration pénitentiaire, grands professionnels, au moment où tout le monde parle du terrorisme et de l'islamiste radical en prison, financés par les pétrodollars ici présents dans l'hémicycle. Monsieur le ministre, en ce moment, à Clairvaux même, un imam, un rabbin et un curé travaillent ensemble pour donner une image ouverte de la religion. Monsieur le ministre, Clairvaux, c'est un bassin d'emploi qui concerne tout le département de l'Aube, tout le département de la Haute-Marne. Monsieur le ministre, dans un bassin d'emploi rural, avez-vous tant de mépris pour la ruralité? Avez-vous tant de mépris pour des gens qui travaillent? Avez-vous tant de mépris pour des membres d'administration pénitentiaire? Monsieur le ministre, la fermeture de Clairvaux, c'est un crime devant la nation. Pourquoi voulez-vous fermer une centrale qui n'est pas vétuste, contrairement aux allégations que vous faites?
Merci. La parole est à monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Alors, comme le député Duic a été long, je vais résumer brièvement l'argumentation de Jean-Jacques Urvoas. C'est vétuste, le chauffage est trop coûteux, les cellules sont trop petites, on va vous faire dans un autre coin de l'Aube, que protège peut-être le maire de Troyes, monsieur Barouin, une autre centrale.
Alors, c'est très difficile pour nous qui animons la partie historique de Clairvaux, en collaboration quotidienne avec l'administration pénitentiaire, car, comme vous l'avez dit, nous avons essayé de faire de Clairvaux un lieu de réflexion sur les enfermements. Et le fait que nous avons encore des bâtiments monastiques très considérables, la présence de la vieille prison du 19e siècle, et surtout une prison moderne, nous avons finalement, à l'intérieur du domaine de Clairvaux, la possibilité de donner une illustration très précise de ce qu'est l'enfermement. Alors, il est vrai que Clairvaux est sans doute à réformer un petit peu, à rénover un petit peu. C'est pas mon rôle qui anime la partie culturelle de Clairvaux de me mêler de ce qui se passe à l'intérieur de la prison.
Cependant, vous seriez pas loin de dire que la vétusté, ça peut être parfois une garantie d'humanité.
Je pense qu'effectivement, Clairvaux, c'est paradoxalement quelque chose qui est à part. Il faut savoir que il y a en France très peu de détenus de longue peine, ça c'est ce que les Français ne savent pas, il y en a moins de 1000. Les maisons centrales, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les maisons d'arrêt, ce sont des patrimoines tout à fait spécifiques. À Clairvaux, le patrimoine était un peu vétuste peut-être, il mériterait d'être rénové. Il ne reste pas moins vrai que cette vétusté entraîne peut-être, induit peut-être, une certaine humanité dans les rapports entre les surveillants et les détenus. Nous travaillons un petit peu avec les détenus pour des activités culturelles et nous ressentons vraisemblablement quelque chose qui n'existe pas dans les prisons qui sont faites que de béton et de boutons pression et de caméras. À Clairvaux, les caméras existent, mais il n'y a pas que des caméras, il y a aussi des présences et finalement, sans doute, un mode de gestion qui est spécifique et qui garantit peut-être le fait qu'il n'y ait pas de grands problèmes avec les détenus à Clairvaux depuis des années.
On y met les détenus les plus difficiles.
Ces détenus sont souvent des gens qui ont fait des choses abominables, mais il n'en reste pas moins vrai que nous avons à Clairvaux sans doute un mode d'incarcération de ces détenus qui est sans doute une manière aussi d'aller vers leur réinsertion.
Clairvaux menacé, 200 emplois, Bayel qui ferme, la principale usine de Bar-sur-Aube, votre ancienne commune, Jean-François Leroux, 400 emplois, pilote dans la filière Litry, Coval, sa fabrique, Tréca, Alain Pillot, Simons, a failli fermer. Le tribunal de commerce de Meaux vient de choisir un repreneur qui garantirait le maintien de l'usine de Bar-sur-Aube. Vous avez l'impression d'être parfois la chèvre de Monsieur Seguin?
C'est vrai que Bar-sur-Aube a maintenu tous ses emplois jusqu'à l'an 2000. Et avec bien du mal. Elle avait peut-être même des emplois un peu spécifiques, comme par exemple la chanvrière, qui est la seule usine française qui traite le chanvre. Et d'un seul coup, depuis quelques semaines, on voit successivement, d'une semaine à l'autre, soit des fermetures, soit des menaces de fermeture, soit des hypothèses de fermeture. Et finalement, on se pose la question, cette ruralité à l'intérieur de laquelle nous avions une activité industrielle, est-ce que finalement c'est compatible d'être à la fois en ce milieu de la France, un peu perdu, faut bien le reconnaître, et d'avoir quand même une véritable vie traditionnelle. Si les usines s'en vont, il restera effectivement la vigne, mais la vigne ne constitue pas suffisamment d'emplois pour que la ville reste ce qu'elle était. En fait, c'est notre tradition qui va disparaître.
Et vous n'avez pas envie de faire de l'histoire une vitrification, une muséification du passé. Merci à vous, Jean-François Leroux. Je rappelle que sous le nom de Jean-François Duisse, vous avez publié nombre de livres sur l'architecture cistercienne et sous votre vrai nom, aux vaillantes éditions Châtelet-Voltaire, Clairvaux, le génie d'un lieu. L'émission a été préparée par Franck Olivard avec la réalisation Jacques Sigal. La technique, c'était Antoine Gomez.